Jules Girardin, Petit conte alsacien. Le vrai coupable. Les cris du petit garçon devinrent si perçants que sa petite mère les entendit de la cuisine où elle préparait des nouilles. Jésus, Mein Gott, s'écria-t-elle, le petit Jean est tombé de son lit. Elle essuya avec précipitation ses deux bras couverts de pâte et de farine et se précipita au secours du petit Jean. Le petit Jean, en chemise, à genoux sur le pied de son lit, hurlait du haut de sa tête, les deux poings enfoncés dans ses yeux. Le chat de la maison déjeunait philosophiquement des débris d'un gâteau, sans prendre le moindre souci des hurlements du petit Jean. Le chien bourru, qui avait l'air d'être coiffé d'un bonnet à poils comme un sapeur, se tenait en sentinelle. Ramassé sur lui-même, les reins cambrés, les yeux fixés sur la porte, il était prêt à sauter sur l'ennemi invisible, dont l'approche semblait si fort épouvanter le petit Jean. Quand la petite mère apparut, avec les bras tout rouges, parce qu'elle avait frotté trop fort, elle s'écria: Jésus, Mein Gott, que se passe-t-il donc? Le chat regarda sournoisement de côté, tout en se léchant les babines, pour rattraper quelques miettes de gâteau égarées dans ses fines moustaches. Toute sa contenance disait clairement: La peste soit du petit braillard, dont les cris ont attiré cette femme. Elle doit aimer le gâteau. Si elle allait vouloir manger sa part du mien, il n'y en a pas déjà trop pour moi tout seul. Sur cette réflexion, il ramena le bout de sa queue sur ses pattes de devant, se mit en boule et attendit les événements. Le chien fit entendre un petit cri de joie parce qu'il pensa aussitôt: Qu'il arrive maintenant, l'ennemi de notre petit Jean, nous serons deux pour lui répondre. Quant au petit Jean, il n'eut pas plus tôt aperçu sa mère que ses hurlements redoublèrent. Il déclara qu'il fallait fouetter le méchant chat et fouetter aussi le méchant chien. La mère, femme prudente, commença par remettre le petit Jean sous ses couvertures. Quand il fut chaudement enveloppé, elle l'assit à côté de son lit, lui passa doucement le bras autour du cou et lui laissa exhaler toute son indignation. Elle ne prononçait pas une parole et se contentait de caresser son petit garçon. C'était une femme adroite et sage. Elle savait quand il faut parler et quand il est bon de se taire. Enfin, le petit Jean ne hurlait plus. Il poussait de gros soupirs et des sanglots étouffés lorsque son père entra à son tour. Son père était un grand gaillard de 6 pieds, aussi doux et aussi inoffensif qu'il était grand, gros et fort. Il était employé comme homme de peine dans une importante maison de commerce. Ce géant, qui avait la conception lente et la parole embarrassée, passait sa vie à admirer sa petite femme, qui parlait facilement et bien, et toujours avec un très grand bon sens. J'ai grand faim, dit-il avec un rire joyeux. Mais voyant que le petit Jean sanglotait, il passa brusquement sa main droite dans ses cheveux blonds, qui se dressèrent aussitôt sur sa tête, et dit d'une voix étranglée: Malade? La petite femme lui ayant fait signe que non, il donna un nouveau tour à ses cheveux, réfléchit profondément et s'écria: Oh quoi, quoi, quoi alors? Au seul mot j'ai grand faim, le chat frissonna d'horreur en pensant à son gâteau et lança des regards vindicatifs sur les bottes monumentales du papa. Le chien se dit en remuant la queue: Qu'il vienne, mais qu'il vienne donc maintenant l'ennemi de notre petit Jean. Et il regarda avec une admiration profonde les mains redoutables du papa de Jean. Le petit Jean, tout à fait calmé, raconta que le chat lui avait mangé son gâteau et que le chien l'avait laissé faire. Le récit de ses griefs l'ayant fort ému, ses petites lèvres tremblèrent et il se remit à pleurer. Le père avait le cœur tendre. Il ne put supporter la vue de son petit enfant qui pleurait. Assénant sur la table, qui n'en pouvait, un grandissime coup de poing, il déclara que cela ne pouvait se passer comme cela et que ce chat. Sa femme posa tranquillement sa petite main sur la manche du géant et lui dit avec un sourire: Écoute, Otto, laisse-moi faire. Oui, ma chère, répondit humblement le bon géant. Et sans demander la moindre explication, il ouvrit de grands yeux et de grandes oreilles aussi, admirant d'avance ce que sa femme allait faire. La petite femme aurait pu en remontrer à bien des magistrats sur l'art de faire parler un témoin, de préciser ses idées, de l'amener à dire toute la vérité, presque à son insu. Telle était du moins l'opinion qui se formait avec lenteur dans la tête du géant à mesure que sa femme faisait parler le petit Jean. Voilà ce qui résulta de la déposition même du jeune témoin. Maman lui avait donné un gâteau, à condition qu'il demeurerait bien chaudement dans son lit, parce qu'il était un peu enrhumé. Il était d'abord resté tranquille comme une petite souris, regardant de près son gâteau et retardant le plus possible le moment d'y mordre, afin de faire durer le plaisir plus longtemps. Puis il s'était amusé des gambades du chat et des mines du chien. Tout à coup le chat avait disparu. Le petit Jean l'avait entendu sauter derrière le pied du lit. Pouf, pouf, pouf. Il avait levé la tête, seulement un tout petit peu. Puis il avait sorti un bras. Puis il s'était accoudé. Puis il s'était mis sur son séant. Alors il avait eu si grande envie de savoir ce que faisait le chat qu'il s'était glissé tout doucement à quatre pattes jusque sur le pied du lit. Arrivé là, il avait regardé par-dessus le bord. Le chat, debout sur ses deux pattes de derrière, jouait avec un pantin qui pendait au pied du lit, au bout d'une ficelle. Le petit Jean s'était accoudé et s'était mis à rire de tout son cœur. Et le chien avait l'air de rire aussi. C'était si drôle et si amusant que le gâteau était tombé. Le petit Jean ne savait pas comment. Alors le chat avait sauté sur le gâteau, et le méchant chien n'avait pas défendu le gâteau. Donc, dans l'idée du petit Jean, le chat et le chien étaient coupables, et peut-être bien un peu aussi dans l'idée du papa. Comment la petite maman s'y prit-elle pour changer complètement les idées de ses deux enfants, le grand et le petit, sur ce point important? Le géant aurait été incapable de le dire, et cependant elle les changea du tout au tout. Oui, tous les deux comprirent, clair comme le jour, que les chats sont faits pour manger les gâteaux des petits garçons désobéissants et maladroits, que les chiens doivent trouver tout naturel qu'un chat mange un gâteau quand il lui en tombe un sous la patte. Comment, en effet, le chien pouvait-il savoir si le gâteau avait été donné par le petit garçon ou maladroitement lâché? Tout ce qu'il avait compris, en entendant crier le petit Jean, c'est qu'il avait du chagrin. Aussi se tenait-il en sentinelle afin de happer le premier voleur d'enfants qui serait venu pour lui enlever son petit garçon. À mesure que sa maman faisait la part de chacun dans ce terrible drame du gâteau, le voile se déchirait devant les yeux du petit Jean. Il finit par comprendre que le vrai, le seul coupable, c'était le petit Jean, que rien de tout cela ne serait arrivé si le petit Jean fût resté bien tranquille dans son lit, comme sa maman lui avait recommandé et comme il l'avait promis. Il était bien petit, le pauvre petit Jean, mais sa conscience parlait déjà en lui. La preuve, c'est qu'il baissa le nez et mit son doigt dans sa bouche, sans essayer de se défendre. Le père en demeura tout ébahi. Le chat termina son festin sans encombre, et le chien, voyant qu'il n'y avait pas le moindre ennemi à combattre, vint se frotter contre les jambes de son ami, le géant. Laissant le petit Jean à ses réflexions, le digne couple alla manger la soupe. Tout en avalant sa soupe, le géant remua la tête, et le travail intérieur de la pensée faisait dresser ses cheveux roux par touffes isolées. « Et dire ! » s'écria-t-il enfin la bouche pleine, « dire qu'il n'a même pas répliqué. C'est plus fort que tout ce qu'il y a de plus fort. Voilà du lard qui tremble. Il va être bien bon. Sais-tu, là entre nous, que c'est un enfant extraordinaire ? J'ai peut-être dit une sottise. Non, tant mieux. Sais-tu bien une chose ? S'il continue, quand il sera grand, il sera aussi bien élevé que le fils d'un juge. Il pourra devenir tout ce qu'il voudra. Tout, ce sera un monsieur. » « Quelle idée ? » répondit la petite femme avec des yeux pleins de malice. « Te fais-tu d'un monsieur ?» Le géant roula de gros yeux effarés, avala de travers et devint rouge comme une pivoine. Il répondit aussitôt qu'il put parler. « Élevé par toi, ma chère, fortune, grande maison, domestique, équipage, choucroute à discrétion, jambon fumé, vin du Rhin. » Comme sa femme souriait en hochant la tête, il reprit avec embarras. J'avais oublié la redingote de drap fin avec deux beaux boutons, très rapprochés l'un de l'autre dans le dos. Non. Mais toi, que lui souhaites-tu donc? Qu'il soit un bon chrétien et un bon français, qu'il soit juste et charitable comme toi, qu'il se souvienne tous les jours de sa vie que dans la plupart des malheurs qui arrivent à un homme, la cause première et le premier coupable, c'est lui, et non pas le chien et le chat, ajouta-t-elle en riant. Ma chère, répondit le géant avec soumission. « Je suppose que c'est toi qui as raison. et même je suis sûr que tu as raison. » Là-dessus, il retourna à son travail. Tout en ficelant des paquets et en clouant des caisses, le géant, ce jour-là, ne cessa de marmotter entre ses dents. « Oui, elle a raison. Que c'est drôle de n'avoir jamais songé à tout cela. Que d'ennuis et de mésaventures je me suis attiré par ma propre faute. Maintenant qu'elle m'a ouvert les yeux, je pourrais citer mon exemple et parler là-dessus comme un curé en chaire, c'est-à-dire pas tout à fait si longtemps. » Il était si enfoncé dans ses souvenirs personnels et si occupé à remonter des effets aux causes que ses cheveux se tinrent dressés toute la journée et qu'il se donna force coups de marteau sur les doigts. « N'importe, se dit-il, en portant son doigt à sa bouche après un coup de marteau plus violent que les autres. Un homme n'est pas fâché de voir clair dans ses idées. Qui voit clair marche droit. Par malheur, le raisonnement n'est pas mon fort, et pour sûr je finirai par me perdre là-dedans, si je ne trouve pas quelque chose comme un bon proverbe pour me clouer cette vérité dans la tête. » À force de chercher et de travailler, il finit par trouver une phrase qui lui parut, vanité d'auteur à part, la plus jolie du monde. « Les chats et les chiens, se dit-il, c'est des bêtes qui sont faites pour être laissées tranquilles toutes les fois qu'elles ne vous disent rien. » Le soir, il soumit sa phrase au jugement de sa petite femme. « C'est peut-être un peu long, lui dit-elle en riant. « N'importe, c'est fort bien, mon homme, tu m'étonnes. » L'homme se mit à ricaner dans l'excès de sa joie. La femme reprit. « Avec un tout petit changement, cela serait parfait. » « Évidemment, reprit le bon géant. Eh bien, fais voir ce changement. Voici ce que je te proposerai. Toute faute est une graine de chagrin. » « Bravo, hurla le bon géant. Et tu viens de trouver cela tout de suite ? À l'instant. Excusez, ma petite femme, tu es une vraie princesse pour le cœur, pour l'esprit, pour tout. Tu as rendu ma petite chose si belle que je ne la reconnais plus. Tu te perdais un peu à droite et à gauche. Je me suis contentée de rendre cela plus simple et plus court. Plus court, c'est bien cela, reprit le digne homme. Ce soir-là, ce fut lui qui endormit le petit Jean, en lui chantant sur un air de Fréchutz la fameuse phrase « Toute faute est une graine de chagrin ». Le rythme n'y était pas, mais l'intention y était. Et après tout, c'est là le point essentiel.